On va accueillir comme il se doit Michel. Michel, bonjour. Michel Favret.
Bonjour Joël.
27e chronique Astro. Alors là, on va rentrer d'entrer dans le vif du sujet parce qu'il y a un bon reportage et puis il y a de l'actu, il y a de l'info. Hein.
Voilà, tout le monde, les auditeurs, ont sans doute pas raté l'information de Thomas Pesquet qui est arrivé dans l'ISS. On en a beaucoup parlé dans les médias ces 15 derniers jours. Et je trouve que ça tombe pas mal puisque le mois dernier, j'avais évoqué la conquête spatiale habitée. Et ça me permet de faire un petit point sur la situation actuelle. Alors, une précision, on peut se demander pourquoi il y a aussi rarement des Français dans l'espace. Il faut savoir que les Européens participant en hauteur d'environ 8% à la construction et au fonctionnement de l'ISS, c'est la même part qui leur est réservée dans les équipages. Donc ça permet pas d'envoyer très souvent des Européens dans l'espace. Et pour ce qui concerne les Français, sauf erreur de ma part, la dernière fois c'était en 2008, quand Léopold Eyart, je suppose que ça se prononce comme ça, c'est pas évident, a passé 48 jours à bord de l'ISS qu'il avait rejoint à l'époque avec la navette spatiale Columbus.
Alors justement, pourquoi les astronautes européens utilisent-ils le lanceur russe Soyouz ?
Eh bien, depuis l'arrêt des navettes spatiales américaines en 2011, seul le Soyouz russe permet d'y envoyer des équipages. L'Europe n'a pas de lanceur adapté au vol habité, même si Ariane 5 avait été conçu au départ pour pouvoir lancer une petite navette baptisée Hermès avec trois astronautes, mais ce projet a été abandonné en 1992. D'ailleurs, la future Ariane 6 qui doit la remplacer dans les années 2020 n'est pas prévue non plus pour des vols habités. Côté américain, la NASA travaille sur le SLS, Space Launcher System, qui devrait être capable à partir de 2018 d'envoyer en orbite basse le vaisseau Orion avec 4 astronautes à bord. Il y a aussi des projets de sociétés privées comme SpaceX, hein, côté américain. Pour être complet, il ne faut pas oublier non plus la Chine, hein, dont les fusées longue marche mettent régulièrement en orbite des taïkonautes, hein, c'est comme ça qu'on appelle les astronautes chinois. Mais la Chine ne participe pas au programme ISS car elle développe sa propre station spatiale chinoise, Tiangong, qui est pour le moment beaucoup plus petite. Hein. C'est un seul module d'à peu près 10 mètres de long et de 8 tonnes et demie, alors que l'ISS fait dans les 450 tonnes. Hein. Ça n'a rien à voir. Alors pour finir, je vais proposer aux éditeurs de s'intéresser à l'ISS, mais pour une fois pas à la télévision, directement dans le ciel. On peut avoir la chance, hein, comme elle fait une orbite très rapide, hein, un tour de la Terre en 90 minutes à peu près, et que son orbite se décale progressivement par rapport au sol, on peut la voir passer dans le ciel de temps en temps, et ça tombe bien, en ce moment, ces jours-ci, on peut la voir passer en début de nuit, si la météo est bonne, comme aujourd'hui, avec un ciel clair et sans nuages. Il suffit de lever les yeux au bon moment pour la voir passer comme un point très brillant, hein, presque autant que Vénus, parfois, qui se déplace de l'ouest vers l'est. En général, on peut la voir à peu près 5 à 8 minutes. Alors par exemple ce soir ce serait à 18h30 mais c'est un passage assez bas vers le sud et incomplet car la station spatiale disparaît quand elle entre dans l'ombre de la Terre. Hein, ce qu'on voit c'est le reflet du soleil sur ces énormes panneaux solaires, hein, qui représentent presque la surface d'un terrain de foot. Les prochains jours, alors je mettrai demain en ligne sur notre site web dans la page Le Ciel du Mois la liste de tous les prochains passages. Mais si on regarde pour les prochains jours, vendredi 2 décembre elle passera entre 18h21 et 28h. Samedi, entre 19h06 et 11, elle sera très brillante. Elle partira du sud-ouest pour monter vers le zénith, hein, donc au-dessus de nos têtes, et disparaître un petit peu après. Et dimanche, elle passera entre 18h13 et 21. Lundi, entre 19h et 19h04. Et ça continue comme ça, tous les soirs, en général entre 18h, 18h30 et 20h, selon les jours, jusqu'au 19 décembre. Alors, si on peut, comme je l'ai dit, aller voir sur notre site web, mais les éditeurs peuvent trouver aussi d'autres sites web, hein, où en fonction de l'endroit où on se trouve, on peut avoir la prévision des passages. Moi, j'utilise un site qui s'appelle Events Above, par exemple.
Allez, on passe au thème, le sujet, la conquête spatiale, épisode 2, Michel.
Voilà, le mois dernier, j'avais évoqué surtout le début de l'ère spatiale avec l'aventure des missions humaines, du premier homme en orbite, Yuri Gagarin, le 12 avril 1961, jusqu'au premier pas de l'homme sur la Lune, Neil Armstrong, le 21 juillet 69. Alors, le 21, c'est pour la France, hein, je précise que pour les Américains, c'est le 20 en raison du décalage horaire. Depuis, les vols habités se cantonnent à des survols de la Terre en orbite basse, comme avec l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Les futurs projets envisagent un retour sur la Lune, ce qui me paraît probable, car il existe des possibilités d'exploitation minière à terme, et à plus long terme vers Mars, mais ça me paraît beaucoup plus hypothétique. Aujourd'hui, je voudrais surtout parler des engins non habités, comme les satellites, les sondes, les atterrisseurs. En laissant de côté toute la flotte des nombreux satellites terrestres, hein, on pense qu'il y en a à peu près 3000 en activité, dont chacun connaît l'intérêt pour la météo, les télécoms, le GPS, etc. Sans oublier aussi qu'il y a tout un volet militaire dont on ne sait pas grand-chose, et ce qui rend difficile le décompte exact des satellites actifs. Je vais me concentrer plutôt sur les engins qui entrent dans le cadre de l'exploration spatiale, donc qui visent à mieux connaître le système solaire et plus largement dans l'univers dans lequel nous vivons, à commencer par les télescopes spatiaux.
Alors pourquoi en envoyer dans l'espace alors qu'on a déjà beaucoup de télescopes sur Terre, Michel ?
Alors c'est une très bonne question. Pour comprendre, il suffit de regarder au-dessus de nos têtes. Même si elle nous paraît transparente quand il n'y a pas de nuages, nous observons l'espace au travers de l'atmosphère terrestre, et cela nous pose de nombreux problèmes. Il y a en effet la turbulence atmosphérique, le fait que l'air est agité sans cesse de mouvements dus à des différences de température. On le voit bien en été au-dessus d'une route surchauffée ou d'un bâtiment métallique en plein soleil. L'air semble comme troublé par des courants turbulents. Cet effet est amplifié par le grossissement, et on voit souvent ce genre d'effet dans une paire de jumelles quand on regarde au loin. Même si l'air n'est pas très chaud, on a cette espèce de brouillard, de brouillage, si je peux dire, de l'image. On peut penser à l'image troublée qu'on a de l'extérieur quand on ouvre les yeux sous l'eau dans une piscine. Pour schématiser, on pourrait dire qu'on observe l'espace comme si on se trouvait au fond d'une piscine, sauf qu'elle n'est pas remplie d'eau, mais d'air sur une épaisseur d'environ 100 km. Alors cette image de la piscine peut paraître exagérée, mais je peux vous dire que si on observe la Lune avec un grossissement assez fort, même dans un télescope amateur, on voit sa surface se déformer, se gondoler sans arrêt. Alors imaginons la lumière qui nous provient d'un astre lointain. Elle a pu passer quelques minutes ou des heures, hein, si c'est un objet du système solaire, des années ou des siècles pour les étoiles et les nébuleuses de la Voie lactée, voire des millions d'années pour les autres galaxies, à traverser l'espace pratiquement sans rencontrer la moindre particule, le moindre atome. Et juste avant d'entrer dans nos télescopes, pendant 1/3 millième de seconde, elle traverse l'air où elle se met à zigzaguer au gré des courants qui agitent l'atmosphère. Et c'est la catastrophe, l'image est comme brouillée, beaucoup moins nette que ce que pourrait donner le même télescope sans la turbulence atmosphérique. D'où l'intérêt de sortir les télescopes de l'atmosphère en les plaçant dans l'espace. C'est comme ça que Hubble, qui ne fait que 2,40 m de diamètre, donne des images aussi bonnes que les plus grands télescopes au sol qui, eux, font dans les 8 à 10 mètres de diamètre. Alors Hubble, il arrive en fin de vie, hein, on peut plus aujourd'hui le réparer s'il a le moindre pépin, puisque c'est les navettes spatiales américaines qui pouvaient aller réparer Hubble. Et on doit le remplacer en 2018 par le JWST, un James Webb Space Telescope, qui sera beaucoup plus gros, 6,50 m de diamètre, et donc plus puissant. Pour les mêmes raisons, il est intéressant de placer dans l'espace les télescopes d'observation du Soleil, car sa lumière violente est fortement diffusée dans l'atmosphère terrestre. De plus, on peut les placer de telle manière qu'ils observent le Soleil en continu, sans avoir les alternances de jour et de nuit comme sur Terre. Depuis 1996, le satellite SOHO de l'ESA et de la NASA surveille notre étoile, le Soleil, et il était rejoint en 2011 par SDO, ce qui veut dire Solar Dynamic Observatory de la NASA, qui nous fournit des mesures et des images encore de bien meilleure qualité dans un large spectre de longueur d'onde. Et c'est ça l'autre raison de placer des télescopes dans l'espace. Notre atmosphère qui semble transparente ne l'est que dans une toute petite fenêtre du spectre électromagnétique qu'on appelle habituellement le domaine visible, c'est celui que perçoivent nos yeux. Et quelques petites bandes dans l'infrarouge ou certaines ondes radio, et c'est pour ça que par exemple qu'on a au sol des radiotélescopes qui ressemblent souvent à de très grosses paraboles. Or, les objets qu'on veut observer dans l'univers nous envoient aussi de la lumière, ou plus généralement des ondes, incapables de traverser l'atmosphère qui leur est totalement opaque. Si on veut recueillir ces informations, la seule solution est de sortir de l'atmosphère. D'où les télescopes spatiaux qui observent dans l'infrarouge lointain, comme par exemple les missions Planck et Herschel de l'ESA. Dans ces longueurs d'onde, on peut observer des objets que je qualifierais de froids, hein, par rapport aux étoiles, comme des nuages de gaz ou de poussière qui donnent naissance aux étoiles, les molécules d'eau, ou encore ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est comme un rayonnement fossile baignant tout l'univers et qui nous permet d'avoir des informations sur son très lointain passé. C'est une image qui date d'à peu près 380 000 ans après le Big Bang. À l'opposé dans le spectre, c'est aussi uniquement depuis l'espace qu'on peut capter les rayonnements les plus énergétiques, dont l'atmosphère nous protège, et c'est heureux car ils sont dangereux pour nous et la plupart des formes de vie. Ce sont les ultraviolets, les rayons X, comme ceux qu'on utilise pour faire des radiographies, et les rayons gamma. Pour citer quelques noms de satellites, il y a Chandra de la NASA, qui observe dans les rayons X, ou pour l'ESA, XMM Newton, dont on prévoit l'arrêt à la fin de cette année. Dans le domaine gamma, il y a SWIFT de la NASA, qui observe aussi dans d'autres longueurs d'onde. Ils permettent d'étudier des phénomènes très énergétiques, comme par exemple les explosions de supernovas dans notre Voie lactée ou des galaxies ayant des émissions très puissantes, comme les quasars. On voit donc que pour étudier l'univers dans toute sa variété, il n'y a pas d'autre choix que de sortir des télescopes de notre atmosphère en les plaçant en orbite.
Oui, mais il y a aussi toutes les sondes qu'on envoie très loin de la Terre, vers Mars ou Jupiter par exemple.
Oui, et c'est l'autre aspect de l'exploration spatiale, avoir de meilleures images et mesures en se rendant sur place. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, pourquoi regarder une image imprécise et pâlote dans une paire de jumelles quand on peut s'approcher d'un bâtiment, d'un bateau par exemple, ou d'un animal pour le voir beaucoup mieux ? Pour donner une illustration très simple, avec sa petite lunette, Galilée ne pouvait distinguer que les plus gros cratères de la Lune, dans les 100 km de diamètre à peu près. Alors qu'aujourd'hui, avec des télescopes d'amateurs, on distingue des cratères de quelques kilomètres seulement. Et encore plus petits dans les grands télescopes professionnels. Mais cela n'a rien à voir avec la précision d'une sonde comme LRO, hein, Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, qui permet de distinguer les sites d'alunissage des missions Apollo à la surface de la Lune, soit des détails de quelques mètres seulement. On peut aussi penser à la mission européenne Rosetta, qui nous a fourni des images très précises du noyau de la comète Chury, alors que depuis la Terre, il n'est guère plus gros que quelques pixels sur les meilleures images fournies par les grands télescopes. Ou la mission américaine New Horizons, qui a survolé Pluton l'an dernier, alors que jusqu'à présent, on n'avait absolument aucun détail sur sa surface, même sur les photos prises par Hubble. Dans ce domaine des sondes spatiales, il y a une limite qu'il faut bien comprendre. Avec nos technologies actuelles, les seules missions possibles restent dans le système solaire en raison des distances énormes à parcourir. Cela se traduit par des jours de voyage, si on va par exemple vers la Lune, des mois pour Mars ou Vénus, ou des années pour les planètes plus lointaines. Pour prendre des exemples récents, Juno, une sonde de la NASA dont j'ai parlé déjà ici, a mis 5 ans pour atteindre Jupiter, Cassini 7 ans pour atteindre Saturne et New Horizons 10 ans pour atteindre Pluton. Si l'on regarde hors de notre système solaire, les distances interstellaires sont tellement vertigineuses que la durée du trajet devient totalement incompatible avec la vie humaine et je dirais même avec la durée des civilisations humaines. Si elle se poursuivait dans la bonne direction, la trajectoire de New Horizon, donc vers l'étoile la plus proche de nous par exemple, elle mettrait plus de 90 000 ans à l'atteindre. Donc c'est complètement impossible hein, par rapport à ce qu'on peut faire. Et ces voyages relativement courts dans le système solaire, on les doit à une importante découverte faite dans les années 60, un moyen d'accélérer les sondes à moindre frais. Pardon. L'envoi des sondes spatiales a commencé très vite après la mise au point des fusées par les soviétiques, en commençant par viser l'objectif le plus facile, car le plus proche, la Lune. Luna 2 a été lancée le 13 septembre 59, hein, 1959, soit 2 ans après Sputnik, et elle s'est écrasée sur le sol lunaire le lendemain. Puis, ils ont envoyé Luna 3, un mois plus tard, qui s'est mise en orbite et a pu photographier pour la première fois la face cachée de la Lune. Et du coup, pour la petite histoire, la plupart des reliefs qui s'y trouvent portent des noms soviétiques. Hein, c'est eux qui ont baptisé les montagnes, les cratères, etc. Les Américains, de leur côté, ont réussi à poser la sonde Surveyor 1 sur la Lune en 1966, soit seulement 3 ans avant la mission humaine Apollo 11. Après la Lune, on a visé plus loin avec les planètes les plus proches, donc plus faciles à atteindre. Vénus a été survolé d'abord par les Américains en 1962 avec Mariner 2, puis visité par les Soviétiques en 1970 avec Venera 7 qui s'est posé à sa surface. Pour Mars, ce fut l'inverse avec un premier survol américain en 64 avec la sonde Mariner 4 et le premier atterrissage par des Soviétiques en 1970 avec Venera 7. Ensuite, c'est clairement la NASA qui a pris les devants dans l'exploration plus lointaine avec Mercure survolé en 73 par Mariner 10, puis les planètes extérieures, Jupiter et Saturne, visitées par les sondes Pioneer 10 et 11, lancées respectivement en 1972 et 73. Il faut comprendre que les calculs très complexes de trajectoire qui utilisent les lois de Newton, même à l'aide des premiers ordinateurs, ne permettaient que des trajets très simples, pratiquement directs de la Terre vers la destination. Et ça limitait les sondes en poids parce qu'il fallait une énergie très importante pour les propulser aussi loin. Dans les années 60, un étudiant de Stanford, en utilisant l'ordinateur le plus puissant de l'époque, alors pour la petite histoire, hein, il est bien moins puissant que le moindre smartphone d'aujourd'hui, a pu calculer des trajectoires plus complexes et a découvert ce qu'on appelle l'effet de fronde gravitationnelle.
Oui, Franck, vous pouvez nous en dire plus. Fronde gravitationnelle,
c'est
Michel.
C'est ça. Alors c'est le fait qu'en faisant passer une sonde près d'une planète, on peut profiter de son attraction pour accélérer. L'image de la fronde est assez parlante, comme on fait tourner la fronde pour accélérer le caillou et l'envoyer à grande vitesse, la planète accélère la sonde qui la frôle en effectuant un virage assez proche. Donc par exemple, pour aller de la Terre à Jupiter, plutôt que de prendre un trajet direct, il peut être plus rapide d'approcher d'abord Mars pour accélérer et effectuer le reste du parcours bien plus vite, à condition bien sûr que Mars et Jupiter soient dans des positions favorables, hein, pas à l'opposé l'une de l'autre dans le système solaire. Et c'est là que la conquête spatiale a connu une chance extraordinaire, car on s'est aperçu en 1964 que les planètes se trouveraient à la fin des années 70 dans une configuration favorable pour visiter dans un temps record toutes les grosses planètes extérieures. Et c'est une configuration qui ne se reproduirait pas avant 176 ans. C'est de là qu'est né le projet Grand Tour de la NASA, qui s'est concrétisé avec l'envoi de deux sondes Voyager en 1977 vers Jupiter, qu'elles ont atteint en 79, Saturne en 1981, Uranus en 86 et Neptune en 89. Et ça a été une véritable révolution pour la connaissance du système solaire, aussi bien les planètes géantes gazeuses que leurs nombreux satellites. Vu depuis la Terre, ce n'étaient que des petits points qui orbitaient autour des géantes, et faute de mieux, on les imaginait un peu comme notre Lune, c'est-à-dire des astres froids et morts. Mais vu de près, ils se sont révélés très différents, avec certains couverts de glace par exemple, ou d'autres révélant un volcanisme actif.
Mais est-ce qu'on cherche encore aujourd'hui ?
Alors au fond, la science ne se justifie que par notre soif de connaissance, sans forcément avoir besoin de définir des objectifs précis. Mais au risque d'être un peu caricatural, je dirais que les choix qui sont faits dans le domaine de l'exploration spatiale se ramènent à deux questions fondamentales, presque philosophiques. D'où venons-nous et sommes-nous seuls dans l'univers ? La question des origines est abordée avec l'étude des planètes, et notamment des plus grandes comme Jupiter ou Saturne, pour savoir comment elles se sont formées et comment elles évoluent. Ce qui doit nous permettre de mieux comprendre la formation de notre système solaire, donc aussi de la Terre, de nos océans et l'apparition de la vie sur Terre. C'est aussi pour cela qu'on s'intéresse aux petits corps, comme les astéroïdes et les comètes. Car d'une part, ils ont très peu évolué, et sont donc un peu comme des fossiles qui nous permettent d'en savoir plus sur le commencement du système solaire. Et d'autre part, quand ils étaient nombreux à s'écraser à la surface de la Terre, ils ont pu y apporter des éléments essentiels à l'apparition de la vie, à commencer par l'eau de nos océans, mais aussi des molécules organiques comme celles qu'on a découvertes sur Chury avec Rosetta. C'est donc tout l'intérêt des missions comme Rosetta pour les comètes, Dawn qui actuellement survole des astéroïdes, Juno qui est autour de Jupiter ou Cassini en orbite autour de Saturne depuis 2004. Pour ce qui concerne la recherche d'une vie extraterrestre, à côté de la meilleure connaissance des autres habitats potentiels dans l'univers, comme la recherche des exoplanètes et la compréhension des phénomènes chimiques du milieu interstellaire qui peuvent produire ces fameuses molécules organiques, c'est la découverte d'une forme de vie présente ou fossile dans le système solaire qui pourrait être une révélation extraordinaire. Alors on commence par chercher dans les endroits qui pourraient accueillir une vie similaire à celle existant sur Terre, donc ayant besoin d'eau liquide. Et cela limite beaucoup les sites potentiels. Il y a trois satellites, Europe, orbitant autour de Jupiter, Encelade et Titan, autour de Saturne. Mais ce sont des objectifs lointains, difficiles à atteindre. On a vu qu'il fallait plusieurs années pour aller jusque là-bas. La quatrième cible possible est beaucoup plus proche de nous, c'est Mars. Il est donc facile de comprendre pourquoi c'est la destination de nombreuses missions spatiales, dont des atterrisseurs pour aller voir de plus près ce qui se passe à la surface. Dès 1976, les sondes américaines Viking emportaient un petit laboratoire pour vérifier si le sol martien ne présentait pas un comportement pouvant évoquer des réactions biologiques, donc de la vie. Malheureusement, il n'y a pas eu de résultats probants et on pense que c'est peut-être tout simplement parce qu'on s'est posé dans un endroit peu favorable. Depuis, on a fait beaucoup mieux avec des atterrisseurs capables de se déplacer. Mais il faut bien voir qu'on se déplace très lentement à la surface de Mars. Ça n'a rien à voir avec une voiture. Alors en 1996, il y a eu d'abord Pathfinder, qui n'était pas plus gros qu'une valise et pesait dans les 10 kilos. Spirit et Opportunity en 2004 étaient gros comme une petite table, on va dire, et pesaient dans les 180 kilos. Et le dernier, Curiosity en 2012, est une petite Jeep de presque une tonne. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des orbiteurs, comme MRO, Mars Reconnaissance Orbiteur, qui prend depuis 2006 des images saisissantes de la surface martienne. On peut voir par exemple des tornades à la surface de Mars, des avalanches le long des parois, ou des écoulements récents de boue. L'ensemble de ces sondes nous a permis d'en apprendre beaucoup plus sur notre voisine et son passé. On sait aujourd'hui qu'elle a connu une période où elle bénéficiait d'une atmosphère bien plus dense qu'aujourd'hui, qui permettait l'existence d'eau liquide à sa surface. Donc de fleuves, de lacs et d'un océan, ce qui a formé les roches sédimentaires qu'on observe aujourd'hui. Qui dit eau liquide en surface dit peut-être vie, puisque la vie sur Terre semble être apparue dans les océans. Les prochaines explorations martiennes viseront donc à rechercher cette vie soit sous forme fossile, soit peut-être encore active aujourd'hui dans le sous-sol martien. Les principaux projets futurs sont ExoMars de l'ESA en 2020, qui devrait forer jusqu'à une profondeur de 2 mètres, à la recherche d'une éventuelle vie en analysant les échantillons sur place, et la NASA qui prévoit aussi l'envoi d'un nouveau rover en 2020 avec comme objectif de rechercher plus directement la vie. Aujourd'hui, Curiosity et plutôt une mission géologique pour voir quelles étaient les conditions de la surface de Mars il y a très longtemps. À plus long terme, on réfléchit à la possibilité de collecter des échantillons pour les ramener sur Terre afin de les analyser avec toutes les possibilités de nos laboratoires qui n'ont rien à voir avec les dispositifs assez simples et robustes que les sondes peuvent transporter jusque là-bas. Mais il n'y a pour le moment aucune échéance claire pour ce projet. En tout cas, l'exploration du système solaire restera le domaine réservé des sondes et des robots, car d'éventuelles missions humaines seront très coûteuses et dangereuses.
Allez, troisième partie de votre chronique, Michel, le ciel du mois.
Alors, comme je le disais hier aux élèves de l'école de Brive, où j'intervenais avec le planétarium de constellations et galaxies, il faut profiter de la fin de l'automne et de l'hiver pour observer le ciel, car le soleil se couchant très tôt, on peut admirer la voûte étoilée sans avoir à veiller très tard comme en été. Ces jours-ci, le soleil se couche un peu avant 17h30 et il fait déjà bien noir à 18h30. Et ce sera analogue jusqu'à la fin décembre, puisque je rappelle que le 21, c'est le solstice d'hiver, donc le jour le plus court de l'année, la nuit la plus longue aussi. Alors, en regardant le ciel en soirée, à partir de la fin de la semaine, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et jusqu'au 19 décembre, on peut voir passer la très brillante ISS, et c'est toujours émouvant hein, pour nous, les astronomes amateurs, de voir passer ce point lumineux dans le ciel et de penser qu'il y a un équipage de 6 hommes qui passe là-haut à 400 km au-dessus de notre tête. Pour les constellations, je pense que le plus simple, ce serait de consulter les cartes que nous mettons en ligne. En ce moment, le ciel d'automne est bien installé avec sa figure centrale Pégase, qui est repérable comme un grand carré bien haut dans le ciel et arrivant très vite au sud en début de nuit. C'est à partir de lui, je rappelle, qu'on peut observer l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, la grande galaxie d'Andromède, qui est distante de 2,5 millions d'années-lumière. Le ciel de l'hiver commence à se montrer avec la constellation du Taureau, qui se lève dès le début de nuit, suivi par Orion un peu plus tard. Il est levé vers 21h. Avec le décalage saisonnier, elles seront visibles de plus en plus tôt pendant le mois de décembre, et Orion se lèvera au début de nuit vers Noël. Je le signale parce que les trois étoiles bien alignées qui forment sa ceinture sont aussi surnommées les rois mages, puisqu'ils nous reviennent dans le ciel à l'occasion de la fête de Noël. Pour les planètes, la plus évidente est Vénus, très brillante, vers le sud-ouest en début de nuit, et qui se couche vers 20h en ce moment. Comme elle continue de s'écarter du Soleil, ce sera pareil pendant tout le mois de décembre, où elle sera de plus en plus haute dans le ciel jour après jour, et se couchera de plus en plus tard, ce sera vers 21h à la fin du mois. Le soir, on peut encore apercevoir Mars, même si son éclat est moindre, il n'est maintenant pas plus brillante qu'une étoile brillante, on va dire, beaucoup moins qu'une planète comme Vénus, mais on peut le reconnaître à sa couleur orangée. Il est plus haut dans le ciel que Vénus et plus près du sud, en train de traverser actuellement la constellation du Capricorne, dont les étoiles principales forment comme un croissant dans le ciel, pointent vers le haut. On peut voir aussi dans cette figure comme une bouche, et certains surnomment le Capricorne le sourire du ciel. L'autre planète bien visible en ce moment, c'est Jupiter, mais elle se lève le matin, en ce moment avant 4 heures. Fin décembre, ce sera vers 2 heures. Elle se situe au sud-est le matin, elle est très brillante, un peu moins que Vénus, mais suffisamment pour rester perceptible dans le ciel pendant l'aube jusqu'à environ un quart d'heure avant le lever du soleil.
Les éphémérides.
Alors toujours des conjonctions des planètes avec la Lune. Ce samedi, 3 décembre, le fin croissant de Lune sera près de la brillante Vénus, donc ça pourrait faire une belle image, peut-être une photo. Pour lundi, le 5 décembre, elle sera près de Mars, et il faudra attendre le jeudi 22, puis le vendredi 23 au matin pour voir le croissant de Lune passer près de Jupiter. Je vais signaler un phénomène un petit peu plus difficile à observer, c'est ce qu'on appelle une occultation. La Lune, en se déplaçant dans le ciel, passe forcément devant des étoiles qu'elle nous masque temporairement. C'est ça qu'on appelle une occultation. Ce qui est assez rare, c'est qu'elle le fasse avec une étoile très brillante. Mais ça va se produire le mardi 13 décembre, tôt le matin, c'est vers 6h25, malheureusement assez bas vers l'ouest, et on verra l'étoile la plus brillante du Taureau, Aldébaran, qui est reconnaissable à sa couleur un peu orangée, disparaître derrière la Lune. Alors, c'est peut-être pas la peine de se lever pour voir ça, même s'il fait beau. Par contre, je le signale, parce que si des auditeurs se lèvent tôt pour travailler ou partir à l'école, ils peuvent peut-être essayer de l'observer. De préférence aux jumelles, car ce sera la pleine lune, et ça rendra difficile de voir Aldébaran à l'œil nu juste à côté.
Alors c'est la fin de cette chronique, mais pas tout à fait, parce que vous allez nous dire quelques mots sur un ouvrage, on va bien sûr dire quelques mots sur constellations et galaxies, mais vous voulez également nous apporter quelques infos sur les éphémérides de 2017.
Voilà, début novembre, je ne sais pas si je l'avais signalé lors de la dernière chronique, j'étais à ce qu'on appelle les RCE, les Rencontres du Ciel et de l'Espace à Paris, c'est la grande messe de l'astronomie tous les deux ans à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et c'est organisé par l'AFA, l'Association Française d'Astronomie, qui est la fédération principale des clubs d'astronomie en France, qui publie la revue Ciel et Espace. Et je m'étais un peu plaint auprès d'eux que les éphémérides étaient du 15 du mois au 15 du mois et que c'était pas très pratique. Alors, ils m'ont répondu parce qu'en fait, ils ont sorti un numéro spécial qui s'appelle l'Almanach du ciel. Donc, j'ai pu l'acheter en avant-première au RCE, mais je pense que maintenant, il est disponible en kiosque. Et ça reprend, enfin, ça prédit, on va dire, toutes les éphémérides de 2017 sur l'année entière. Alors, ça vaut une dizaine d'euros, hein, je crois 9,50 €. Donc, si des auditeurs sont particulièrement intéressés à observer le ciel, à savoir ce qui va se passer, les rapprochements de planètes, les choses comme ça, ils peuvent investir dans ce petit bouquin.
Voilà, et puis en décembre, c'est l'heure des cadeaux. Hein. Voilà, et puis les étrennes après, donc ça, c'est Michel qui vous le recommande. Alors, on va pas partir comme ça, bien sûr, Constellation et Galaxie. Hein. Voilà, c'est bien de nous en redire quelques mots sur cette association. Vous nous venez notamment de Dordogne, hein, déjà, voilà, du département voisin et ami.
Constellation, j'ai l'habitude de dire une petite association par la taille.
Et chaque fois, je vous reprends, j'ai dit non.
Basée près de Mussidan, en Dordogne. Et la caractéristique principale, c'est qu'on parcourt, alors pas uniquement la Dordogne, mais toute la région, hein, y compris Bordeaux, bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais hier à Brive-la-Gaillarde, par exemple. Ça m'est déjà arrivé d'intervenir à Angoulême ou à Villeneuve-sur-Lot avec un planétarium itinérant. Donc c'est une structure gonflable. On a à l'intérieur un projecteur spécial qui permet de voir le ciel comme s'il faisait nuit et qui me donne l'occasion d'expliquer, alors souvent c'est en milieu scolaire, donc aux élèves, le ciel avec ce que sont les étoiles, les planètes, etc., les principales constellations, comment on reconnaît l'étoile polaire dans le ciel, par exemple. Donc malheureusement, c'est pas gratuit parce que on n'a pas suffisamment de subventions des institutions régionales, mais on peut trouver sur le site toutes les informations, la place qu'il faut pour installer le planétarium, de quoi parle une séance standard, sachant qu'à chaque fois, je prends contact avec les enseignants avant pour discuter de ce qu'ils veulent faire. Je peux vous donner un autre exemple, hein, mais c'est pas avec le planétarium. Juste un peu avant les vacances de Noël, j'interviendrai à Léognan, au collège Mauriac, si je me trompe pas. Et on va parler de Mars, un petit peu comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans la recherche de l'eau et de la vie sur Mars avec les sondes spatiales. C'est un sujet qui est fait dans le cadre de ce qu'on appelle un EPI, hein, donc une activité interdisciplinaire qui mêle la physique et la SVT, par exemple. J'ai rencontré les professeurs la semaine dernière pour définir exactement de quoi on allait parler. Voilà. Donc une association qui agit dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique et plus spécialement dans le domaine de l'astronomie et de l'espace.
Voilà, et puis sur Internet, Constellations et Galaxies, sur n'importe quel moteur de recherche, on vous trouve de suite. Michel, on se voit le mois prochain.
Voilà,
si l'année j'ai prochaine, bien... même.
Non, le mois prochain.
Ah non, c'est vrai, on est encore
si
en décembre.
Si je ne me trompe pas,
avec l'almanach, je me voyais déjà sur les étrennes.
À moins que O2 Radio ferme entre Noël et Nouvel An, ça devrait être le 28.
Je me reprends. Ça va, il n'y a pas de souci, mais j'étais là avec l'almanach, je vous dis, sur les étrennes, etc. Puis le temps passe vite. Donc on se voit à la fin du mois de décembre. Ça sera la chronique numéro 28, la dernière de l'année.
Voilà, la chronique numéro 28, le 28 décembre, ça tombe bien.
Voilà, c'est un moyen mémotechnique. En tout cas, merci Michel, hein, parce que ce savoir-là, faut le transmettre et c'est du travail. Et également, il y a l'enthousiasme. En tout cas, merci à vous. On se voit le mois prochain et là, on va passer à un autre sujet.